J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui emménage dans sa chambre de bonne. Il lui faut une petite lampe pour son bureau, de la moquette, un canapé. Il lui faut savoir s'il place le bureau face au mur ou face à la fenêtre. Rien que de très banal, me direz-vous. Pas exactement. Car ce jeune homme veut devenir écrivain. Il ne pense qu'à ça. Sa vie tout entière ne prend son sens que de ce projet, de cette ambition, de cette vocation. Alors, il ne choisit pas la petite lampe, ni même l'ampoule, comme vous la choisiriez. Il se demande comment elle va éclairer les mots de son œuvre à venir. De même, pour l'emplacement du bureau, son œuvre surgira-t-elle mieux du face-à-face avec le mur ou de cette trouée vers le vaste monde qu'offre la fenêtre ? Et le choix de la couleur de la moquette. Évidemment qu'il n'est pas neutre. Une moquette rouge ou alors beige pâle bourgeois, c'est évidemment toute son œuvre qui pourrait s'en trouver affectée. D'où lui vient sa vocation, son obsession ? Il se rêve en Radiguet ou en Kerouac. Il ne sait pas encore qu'il réglera, près de 30 ans plus tard, son compte à Gilles Deleuze, à cette arrogance inouïe, à ce mépris avec lequel Deleuze a dit que la littérature ne devait s'occuper que de l'universel et n'avait que mépris pour les petites affaires privées du singulier. Eh bien lui, ce sale petit secret dont parle Deleuze avec mépris, la petite affaire privée, comme Deleuze dit encore, il en a un, il en a une. Et c'est justement bien là le combustible de son écriture, de son projet, de son ambition. C'est bien là son moteur et sa quête, l'origine peut-être, n'en déplaise à Deleuze, de son désir fou d'écrire. Comme Kerouac, confessant qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit pour parler à son grand frère, mort à 9 ans, d'une maladie du cœur. Et on va tout de suite rassurer Gilles Deleuze, ce sale petit secret, cette maladie du cœur, n'empêche nullement de délirer le monde. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir ce jeune homme de 17 ans. Il a pris un petit coup de pelle, il a aujourd'hui 30 ans de plus et alterne depuis lors essais et romans avec un rythme soutenu, dont notamment L'Orphelin, La naissance d'un père ou Apprendre à faire l'amour. Également directeur de Philosophie Magazine, cofondateur de l'école d'écriture Les Mots, Alexandre Lacroix est avec nous ce matin, sous le soleil de Platon, le jour où sort aux éditions Alary son nouveau roman « Devenir écrivain ». Et en sa compagnie, nous allons nous demander justement comment on devient écrivain. Faut-il cultiver, faut-il toute sa vie tourner autour de ce sale petit secret dont parle Deleuze, ou au contraire s'en arracher pour enfin prendre le pouls du monde ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour Charles.
Alors je suis très ému de vous recevoir le jour où sort ce gros livre, hein, il faut le dire. Il fait 400 pages, il s'appelle « Devenir écrivain » et je crois pouvoir dire qu'il en faisait 800 au début, car c'est un peu le projet d'une vie. Votre vie est dans les mots, vous écrivez des romans, vous écrivez des essais, vous avez fondé une école d'écriture qui marche hyper bien d'ailleurs, les mots. Et puis là, vous revenez sur la naissance de cette vocation, de cette généalogie, et sur ces années autour de 17, 18, 19 ans, où vous aménagez dans cette chambre de bonne que j'ai décrite, et où vous voulez devenir écrivain.
Oui, j'ai voulu écrire un roman d'apprentissage, en fait, raconter ces années. Au tout début du roman, je mets en scène le jour où, pour la première fois, j'ai les clés de chez moi. Je crois que ça, c'est un rite initiatique, c'est un seuil qu'on a tous franchi pour la première fois, peu importe que ce soit une chambre de bonne, un deux-pièces, un gourbi, peu importe ce que c'est, vous avez les clés de chez vous, ça veut dire que c'est un début d'autonomie. Vous avez les mains posées sur le volant de votre existence, il n'y a plus personne pour vous dire à quel horaire vous devez sortir, vous devez rentrer. Vous commencez à vivre vraiment à la première personne. Et quand je me mets en scène à ce moment-là, j'ai un vœu. Je viens de passer le bac, j'ai pas encore tout à fait 18 ans, j'ai un vœu, c'est de devenir écrivain. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a rien qui colle. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout étudiant en hippocagne, je suis inscrit en maths à Paris 1. Je n'ai aucun contact avec le milieu littéraire.
Personne, ouais.
Je ne connais personne, je ne sais pas comment on s'y prend. Je n'ai jamais rencontré un écrivain vivant de ma vie. Je sais qu'il y a des salons du livre, des festivals, mais moi j'en ai jamais rencontré un seul. C'est un pur fantasme. Et ce que je raconte, c'est le passage des premiers brouillons, des esquisses, parce que je donne pas mal d'archives tout au long du livre.
C'est d'ailleurs passionnant. Vous montrez vos premières ébauches.
Oui.
Et elles ne sont pas toutes géniales d'ailleurs.
Voilà.
Vous êtes très... Ça, c'est une vraie démarche d'écrivain d'ailleurs, de montrer ça.
De montrer le travail en fait, c'est-à-dire de montrer que l'acharnement, le travail quotidien sur les mots amène quand même une forme d'amélioration, une progression personnelle. Et donc le roman couvre cinq années qui vont de ses 17 ans jusqu'à la publication de mon premier roman à l'âge de 22 ans.
Voilà.
Et donc à travers ces cinq années, je me raconte moi-même, mais le but est aussi de montrer ce qui doit s'ouvrir dans une vie pour que l'écriture et l'aboutissement d'un manuscrit deviennent possibles.
Alors, il y a plein de choses dans ce livre. On découvre ces étapes, et puis après, quand vous êtes publié, la découverte du service de presse, les premiers cocktails, les critiques, et puis tout ce que ça vous fait. Et on voyage comme ça dans cette généalogie. Alors, il y a plein de choses passionnantes, mais je voudrais quand même dire qu'au milieu de cette description, qui est la description d'un milieu, et aussi d'une époque, les années 90, il y a quelque chose de dur, quelque chose qui est une réponse à Deleuze, dont on parlera plus tard. D'accord. C'est le petit secret, que moi je n'appelle pas sale petit secret, qui est au cœur de votre œuvre, au cœur de votre premier roman, Première Volonté, au cœur d'un livre que moi je juge presque un chef-d'œuvre, L'Orphelin, que j'ai vraiment adoré il y a quelques années, où vous revenez sur ce secret, qui donc n'en est plus un. On va en parler après. Je voudrais qu'on commence plus légèrement par plein de petites choses très délicieuses qu'on rencontre dans ce livre. Notamment, je prends comme ça dans le désordre, une scène avec votre éditeur, Jean-François Kervéan, pour le nommer, qui vous montre comment rendre un texte meilleur en coupant des phrases. Mmh. Et vous montrez la différence entre le texte d'origine et le texte final. Et franchement, c'est objectivement mieux quand c'est coupé par l'éditeur.
Oui, alors voilà, on fait une séance de travail qu'on appelle un page à page dans l'édition. Ouais. Hein, c'est-à-dire, voilà, on a passé deux soirées ensemble à faire ce page à page. On raconte quelques scènes clés. Et là, ce que me montre Jean-François Kervéan, mais qu'un autre auteur aurait pu montrer, sont des gestes d'artisan. Hein, c'est-à-dire que dans toute forme d'expression artistique, il y a de l'artisanat, il y a des techniques. Et il me montre une sorte de secret d'artisan assez connu. C'est qu'on peut presque toujours bonifier un texte en faisant des coupes stratégiques dans le texte.
Ouais.
Alors, évidemment, la première chose à enlever, ce sont les adjectifs, les adverbes inutiles, les métaphores qui sont en trop. Il y a une phrase de Gide qui est très juste là-dessus, qui dit « Tout ce qui est inutile nuit en littérature ». C'est-à-dire, quand c'est inutile, il faut vraiment l'enlever, parce que c'est pas que ça fait joli. En fait, ça freine la progression du récit, donc il faut couper.
C'est pour ça que vous avez enlevé 400 pages,
hein ? Oui, ah ben, complètement. Alors, non, ça c'est une autre raison. On bonifie un texte en faisant ces petites coupes chirurgicales. Mais il y a autre chose. On peut bonifier un texte également en enlevant parfois des scènes clés, et même des scènes très importantes qui restent présentes à l'état de fantôme dans le manuscrit. Souvent, ce qui émeut dans un manuscrit, ce n'est pas ce qui est explicite, c'est ce qui est implicite. C'est la densité des expériences et de la vie qui est derrière. Si quelqu'un dit tout, ça devient exhaustif, ça devient une chronique, ça n'est plus un roman, ça devient quelque chose qui est assommant pour le lecteur, et souvent lire des mémoires ou lire des journaux intimes trop bavards ou trop exhaustifs, c'est assommant pour le lecteur. Donc, il y a vraiment un travail de coupe qui consiste à densifier l'intensité dramatique des scènes en choisissant ce qui sera dans l'implicite, et tout ce qui sera rejeté dans l'implicite va laisser de la liberté à l'imagination du lecteur.
Alors, en vous écoutant, Alexandre Lacroix, je rappelle que votre livre « Devenir écrivain » sort aujourd'hui aux éditions Alary. On comprend bien la démarche. C'est qu'il y a à la fois une narration, une biographie, vous racontez l'histoire, et puis il y a des réflexions, évidemment, sur ce que c'est que l'écriture. Et quand je vous entends parler de cette scène manquante qu'on va lire parce qu'elle n'est pas là, et qui va habiter le texte parce qu'elle est manquante, bah c'est exactement ce que raconte Pascal Quignard de la peinture, notamment. Et il y a beaucoup d'analyses comme ça, où c'est l'objet manquant qui est quelque part celui qu'on voit le plus. C'est aussi peut-être ce que Lacan appelle l'objet petit a. D'ailleurs, il y a des pages très très drôles sur Lacan, parce que vous êtes un jeune furieux, et vous, quand vous êtes en forme, vous lisez un séminaire de Lacan qui est un peu incompréhensible, mais vous avez envie de vous le coltiner, et c'est là que vous comprenez qu'il faut tenir sur son désir, ne pas céder sur son désir. Il y a des pages très drôles, mais je reviens à ce qu'on disait sur couper, parce que c'est vraiment central dans le métier de l'écrivain. La question, c'est jusqu'où ? Jusqu'où couper ? Vous n'abordez pas cette question, mais elle est implicite. Et je pense que c'est une vraie question dans la relation auteur-éditeur, qui est d'ailleurs posée, par exemple, avec le cas de Raymond Carver. On a beaucoup loué Raymond Carver pour son style minimaliste, mais qui en fait était le fruit du travail de son éditeur. Et Carver a fini par estimer que son éditeur avait dénaturé sa voix originelle.
Oui, alors c'est une histoire qui est assez drôle, celle de Carver, parce qu'il est toujours pris comme le modèle de l'écriture à l'os, de l'écriture dite minimaliste. Or lui, c'est un lyrique, c'est profondément quelqu'un de lyrique, ouais. et en fait on a republié les livres entiers avant les coupes de son éditeur, et on s'aperçoit qu'en fait, ces textes sont de vastes épanchements. Alors, à la question de savoir quand est-ce qu'on s'arrête de couper, qui est une question très juste, on voit bien que quand on enlève tout le gras, on se retrouve avec des phrases très sèches, sujet, verbe, complément, et qu'il peut y avoir quelque chose d'aride, de squelettique dans cette prose-là, où il ne reste plus rien. Mais je dirais qu'il y a un critère qui est un critère très très difficile à évaluer, mais pourtant c'est ce que toute personne qui travaille sur les mots recherche, c'est le critère de la justesse. Moi je fais partie de ceux, enfin j'appartiens à une école d'écriture qui n'aime pas les textes dans lesquels il y a des gyrophares littéraires, c'est-à-dire où on envoie des signaux au lecteur qui a fait une hypocagne Henri IV ou dans Malsup, ou qui est agrégé, qu'on a lu les mêmes livres que lui, alors on lui envoie des signaux, on met des belles tournures, des belles phrases, des belles périphrases. À mon avis, tout ça, on peut l'enlever, on gagne à l'enlever d'ailleurs, c'est-à-dire à ne pas essayer de faire littéraire, à ne pas essayer de surcharger d'effets stylistiques, oui. Mais pour gagner quoi ? Pour gagner quelque chose qui, à mon avis, est la vraie belle écriture, qui est une écriture qui est juste, qui sonne juste par rapport au vécu. Et ça, c'est un peu impondérable, c'est comme le swing en jazz, c'est-à-dire, vous l'entendez dans la phrase quand c'est là, et quand c'est pas là, vous ne savez pas ce qui manque. Et c'est les coupes, faire des coupes comme ça, nuancées, ciblées, ça permet de rechercher cette justesse.
Oui, très intéressant. Et je vous lis, Alexandre Lacroix, un extrait où vous parlez de ce désir lacanien, puisqu'au fond, je lis cet extrait parce que c'est aussi l'objet de ce livre. Vous, votre désir, vous tournez autour de cet axe qui est devenir écrivain. Je rappelle, c'est le titre du livre. Je vous lis. Voilà ce que je comprenais donc, par rapport au séminaire de Lacan. Chacun de nous tient à son propre désir et voudrait le sauvegarder, car le désir est ce qui nous anime. C'est pourquoi on se débrouille pour que l'autre ne le satisfasse jamais entièrement. Ne le satisfasse, Lacan appréciera. Si le partenaire amoureux accueillait sans réserve vos envies, s'il répondait à votre demande, si exorbitante soit-elle, alors vous en sortiriez vidé et hors service comme une douille usée. Est-ce que cette réflexion de Lacan s'appliquait à ce que je vivais avec Mélanie ? Il y a beaucoup de scènes de sexe avec Mélanie. Pas du tout. J'avais l'impression que les choses étaient beaucoup plus simples. Mélanie répondait à mon désir et moi au sien. Nous nous donnions l'un à l'autre sans rien retenir lors de nos rapports sexuels. Nous n'étions pas dans une mentalité d'épargnant. Et c'est en lâchant tout que nous étions exaucés. Chacun de nous abandonnait son désir, mais recevait celui de l'autre en échange. Mais peut-être étais-je trop terre à terre. Peut-être Lacan voyait-il plus loin que moi ? Percevait-il des nuances qui m'échappaient ? Peut-être que Mélanie, lorsqu'elle m'attirait du côté de la violence, formulait à sa façon un désir impossible à satisfaire, innommé et aveugle. Et que c'était ça, la véritable clé de notre relation. Et puis il y avait le jeu de mots de Lacan, son calembour, tuer le désir, qui était une invitation à plaisanter, à ne pas le prendre trop au sérieux. Je notais dans mon carnet, je suis le désir, j'essuie le désir. C'était marrant, ça parlait moins d'amour que de masturbation, mais ça marchait tout aussi bien.
Oui, alors là, voilà, je me mets en scène dans ces années où je suis donc étudiant en maths et je suis très seul en fait. C'est vraiment un adolescent abandonné, la famille ne s'occupe pas de lui. Et donc je fais des maths et je lis notamment Lacan, donc que tout le monde tient pour un génie. Et je lis le séminaire sur le transfert où il est question d'amour et de désir, puisque ce séminaire est pour un peu plus d'un bon tiers un commentaire du banquet de Platon, et c'est ce qui m'intéressait dans ce texte. Et j'essaye de comprendre ce que je lis. Mais dans la suite de ce chapitre qui peut paraître un peu codifié, ce que j'explique, puisque je me débat avec ce style de Lacan qui est un style plein d'obscurité, plein de jeux de mots, mais ce que j'explique en fait, c'est que il pratique un style qui est un peu un style de prestidigitateur, c'est-à-dire que c'est comme si la main de Lacan se tendait vers vous, qu'il allait ouvrir sa main et vous offrir une signification. Dans le cadre du séminaire sur le transfert, c'est très net. À un moment, vous vous dites ça y est, il a fini de commenter le banquet de Platon, il va formuler sa théorie de l'amour, il va le faire. Eh bien, il change de sujet, il se met à parler de la trilogie des Gouffontaine de Paul Claudel. Il change complètement de sujet et il vous laisse en rade. C'est-à-dire que la main ne s'est pas ouverte, le cadeau n'a pas été donné. Et ce que je comprends entre les lignes en lisant Lacan et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que moi j'ai envie d'une prose ou j'ai envie d'une écriture qui donne la signification.
Exactement,
à la fin.
C'est pour ça que j'ai lu ça, parce que vous réagissez contre ce qui est peut-être un charlatanisme, hein, malgré le génie de Lacan, et vous dites moi j'ai envie de dire des choses. Moi j'ai quelque chose à dire avec justesse, à dire avec précision, et c'est ce qu'on va maintenant élucider à travers votre secret. Avant, peut-être juste rappeler qu'il y a plein de scènes hilarantes, notamment quand vous rencontrez l'attaché de presse de Grasset, qui à l'époque s'appelle Claude Dalatore. Elle vous explique directement que votre livre ne marchera pas, qu'il n'a aucune chance d'intéresser le moindre journaliste et que donc la meilleure chose à faire, c'est de ne rien en attendre car il ne se passera rien.
Oui, alors c'est une scène absolument authentique, à mourir de rire. Donc Claude Dallator régnait sur le service de presse de Grasset depuis des années. Elle terrifiait les auteurs, hein. Plusieurs personnes m'ont dit mais c'était un monstre psychologique. Et en même temps elle était assez drôle et elle me reçoit et elle me dit bah voilà, j'imagine que pour vous, vous avez 22 ans, votre premier roman est publié, ça y est, vous êtes Baudelaire, vous êtes Victor Hugo, vous êtes arrivé, vous êtes dans la cour des grands. Ben non, pas du tout, votre roman va intéresser personne, il ne va pas se vendre, les critiques ne vont pas l'ouvrir, ils vont vous percevoir comme peut-être un futur concurrent, ils vont essayer de vous noyer comme un petit chat, et n'attendez rien de moi, de toute façon j'ai plein d'autres choses à faire que de m'occuper de votre livre, donc vous n'aurez rien, ni article,
ça vous a
ni critique,
pas fait rire à l'époque.
Ni... Alors, elle m'assène tout ce laïus, avec quand même une certaine forme d'éloquence, ça dure un peu, et j'ai retranscrit autant que ma mémoire le permettait ce qu'elle me raconte, et la scène s'est passée de la façon suivante, on m'avait servi un café qui était encore tout chaud, et puis je lui ai dit, écoutez, c'est formidable, c'était très très instructif ce que vous venez de me dire, mais là je crois qu'on n'a vraiment plus rien à se dire. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai un café, est-ce que je peux le finir dans votre bureau? Elle me dit oui, et je l'ai fini très lentement en faisant du bruit, vous savez, comme les vieux qui boivent leur soupe, pour l'embêter, et pendant 5-6 minutes, on s'est regardé en chien de faïence en se disant plus rien.
Et voilà. Après, le livre raconte aussi cette amitié naissante, comment elle va vous prendre sous son aile, il y aura aussi d'autres scènes très drôles. On va en parler après, mais d'abord, on écoute un peu Massive Attack. C'était Massive Attack, Unfinished Sympathy.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Alexandre Lacroix et c'est passionnant. Alexandre, j'ai entre les mains votre livre « Devenir écrivain » paru chez Alary Éditions, qui sort aujourd'hui et dans lequel vous racontez comment vous êtes devenu écrivain, comment ça vous a obsédé, comment ça s'est passé, avec beaucoup de scènes très drôles qu'on a évoquées juste avant. Mais il y a quelque chose de moins drôle, c'est ce qui vous a fait devenir écrivain. Et ce suicide de votre père, que vous avez raconté dans votre premier livre, Première Volonté, sur lequel vous êtes revenu souvent, vous permet de répondre à Gilles Deleuze que la littérature n'est pas exactement ce qu'il dit qu'elle est. À la fin du livre, vous racontez être tombé sur un texte éblouissant de Kerouac. Je vous lis, Alexandre Lacroix. « Dès les premières lignes, je reçus un coup à l'estomac. Dans Vision de Gérard, Kerouac évoquait son grand frère mort à l'âge de 9 ans d'une maladie du cœur, dont il n'avait que des souvenirs parcellaires, perdu dans la brume du passé. Il en célébrait la mémoire en des termes poignants. » Là, vous citez Kerouac. « C'était un saint, mon Gérard, donc son frère, avec son visage pur et tranquille, son air mélancolique, et le petit linceul doux et pitoyable de ses cheveux qui retombait sur son front et que la main écartée de ses yeux bleus est sérieux. Je ne lancerai plus de blâme ni de bénédiction à ma terre maudite. Je ne lui adresserai que des obsécrations si je parvenais à me résoudre à empêcher ce visage fixé dans ma mémoire de fuir loin de moi. » Et vous citez Kerouac et vous reprenez « J'étais au bord de larmes, je tournais les pages avec une excitation fiévreuse. C'était ça, la magie de l'écriture. » Kerouac était en train d'établir une connexion directe, d'âme à âme, par-delà l'Atlantique, par-delà les années. Comment s'y prenait-il ? Demandez-vous, au sujet de Jacques Kerouac, Alexandre Lacroix, à la fin de votre livre « Devenir écrivain ». Et là, on comprend que finalement, ce que vous racontez dans ce livre, c'est que vous êtes devenu écrivain pour une raison de nécessité, pour prolonger peut-être le geste de votre père, parce qu'il avait noté dans son journal beaucoup de choses avant de se suicider. Et comme par hasard, vous arrivez à la fin à objecter à Gilles Deleuze que la littérature peut avoir affaire avec quelque chose de privé, quelque chose que lui méprise en l'appelant le sale petit secret. Je vous propose d'écouter Gilles Deleuze dans son abécédaire et de comprendre que c'est à ce Gilles Deleuze qu'on écoute maintenant qu'en vérité, à la fin de votre très beau livre, vous répondez.
Quand on écrit, on mène pas une petite affaire privée. C'est vraiment les connards, l'abomination de la médiocrité littéraire de tout temps, mais particulièrement actuellement, qui fait croire aux gens que pour faire un roman, par exemple, il suffit d'avoir une petite affaire privée, sa petite affaire à soi, sa grand-mère qui est morte d'un cancer, ou bien son histoire d'amour à soi, et puis voilà, et puis on fait un roman. Mais c'est une honte, quoi, c'est une honte, penser des choses comme ça. C'est pas l'affaire privée de quelqu'un à écrire, c'est vraiment se lancer dans une affaire universelle.
Voilà, donc c'était Gilles Deleuze, la honte, c'est plutôt lui, j'ai l'impression, quand il dit ça, avec beaucoup de mépris, et à la fin, vous le combattez assez fortement.
Oui, alors je voudrais d'abord relever avec un peu d'ironie que tout au long de l'abécédaire et de ses entretiens avec Claire Parnet, par ailleurs, Gilles Deleuze est un spécialiste du jugement de valeur non justifié. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui ont des chats et des chiens sont des imbéciles, les chiens sont insupportables parce qu'ils aboient, mais alors la tique, c'est un animal formidable. Ouais. En tennis, le jeu de Borg...
La tique n'est pas pauvre grand monde, explique Deleuze.
Ouais. Oui, c'est ça. En tennis, le jeu de Borg est lourdeau, le jeu de McEnroe est exceptionnel. La littérature anglo-américaine est supérieure à toutes les autres. Alors, il passe à la trappe la littérature sud-américaine, japonaise, hongroise, allemande. Enfin, il multiplie les jugements de valeur de ce type. Et donc, en fait, Deleuze, c'est un peu comme s'il distribuait des bons et des mauvais points. Et comme on le crédite toujours d'une forme d'intelligence supérieure, comme il a l'air d'être une sorte d'oracle, on a envie d'être de son avis et on est tétanisé devant des points de vue aussi marqués. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il nous dit écrire, ça n'est pas une petite affaire privée, c'est une honte d'écrire à partir de son vécu, de sa grand-mère qui est morte, mais comment démarre à la recherche du temps perdu de Marcel Proust ? Bah, ça démarre sur le petit Marcel qui est triste et qui ne sait pas très bien parce que sa maman ne lui a pas fait un bisou ce soir-là.
De toute façon,
avant
le propos de Deleuze est anti-proustien, ce Deleuze-là.
Alors, il a écrit un livre sur Proust, Proust et Lessing, mais c'est vrai que c'est quand même curieux qu'il veuille priver la littérature de son sujet principal, qui est nos vies, parce que qu'est-ce que c'est que nos vies ? Nos vies sont des petites affaires privées, c'est-à-dire les enjeux dans lesquels nous nous débattons, les enjeux de famille, les enjeux d'amour, les deuils, les séparations, ce dans quoi nous vivons le plus intensément et le plus émotionnellement, eh bien, ce sont des petites affaires privées.
Oui.
Et donc c'est ça, à mon avis, le moteur ou l'aliment de la littérature, et d'ailleurs, c'est ce qui fait la puissance des romans, par opposition, je dirais, à la philosophie. Au fond, c'est un reproche de philosophe qu'il fait à la littérature. Effectivement, la philosophie, ce qui intéresse le philosophe, c'est de remonter vers l'universalité du concept, c'est d'avoir cette espèce de remontée en généralité que permet l'argumentation rationnelle.
Ouais.
Mais ce que fait un écrivain, ce que fait un romancier, c'est une évocation qui transmet des émotions et qui doit aller se situer sous l'universalité des concepts, qui passe par en dessous, en fait, qui passe par en bas, qui passe par le singulier.
Oui, et bien justement, Alexandre Lacroix, dans votre réponse à Deleuze, vous argumentez très bien en disant que l'objet de la littérature, c'est peut-être un singulier, qui pourrait d'ailleurs devenir universel, mais aussi... vous montrez que souvent les écrivains reviennent sur la même affaire privée, sur ce petit secret, et que peut-être ce qui fait œuvre, ce qui fait style, ce qui fait écriture, c'est de revenir toujours sur le même sujet. Et il se trouve que votre livre raconte aussi comment vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Pierre Lepère, un écrivain, un furieux, dites-vous, qui n'a vécu que pour la littérature. Alors, je ne vais pas jouer à mon Lacan. Mais vous rencontrez Pierre Lepère, alors que vous avez perdu votre père et que c'est cette perte du père qui vous a lancé dans l'écriture. Et c'est Pierre Lepère, ensuite, qui vous accompagne dans votre vocation. Et justement, vous montrez à Pierre Lepère vos différentes tentatives d'écriture. Souvent, il les juge faiblardes. Et puis, à un moment, vous lui montrez, dans un de vos carnets, ce que vous avez écrit au sujet du suicide de votre père. Je vais lire ce passage, et après, vous allez m'expliquer ce que répond Pierre Lepère. Et ce qui est aussi une réponse à Gilles Deleuze. Donc je vous lis, Alexandre Lacroix, dans votre livre « Devenir écrivain », ce passage est censé être dans un carnet que vous n'avez pas, alors que vous n'avez pas encore publié votre premier roman. « Je l'ai trouvé au bout d'une corde. L' apostrophe, c'était mon père. Fixant d'une apostrophe sans appel le courage du suicide, un pas en avant vers une vie qui n'était pas la sienne. J'avais 11 ans, j'ai vieilli d'à peine une dizaine d'années depuis. » L'œil de celui qui voit, par trop-plein ou par manque de plaisir, forcément voyeur, s'implique dans un réel dont la suite n'est que la répétition. Il s'agit du regard dans le vide, celui-là même qui laisse une impression de vertige par lequel nous souscrivons de plein gré à la tentation de comprendre, de nous saisir, prostrés, de revenir sans cesse au pivot de la souffrance, et ce centre dont aucune évasion ne révèle l'étendue. Pourquoi ? Pourquoi pas moi ? Il faut apprendre à revivre, en répétant plusieurs fois l'opération de cette renaissance, que lamine un dernier doute avant la mort. Eh bien, c'est fait. Il faut encore des années pour explorer la place vide, s'y révéler dans l'intimité de ce père que nous reconnaîtrons au silence de ses traces. Ce que nous lui devons en réalité, c'est le négatif sur fond d'immortalité de nos désirs quant à lui et, par effet de retour, la révélation de l'amour paternel brisé. Et alors, ce Pierre Lepère réagit, et qu'est-ce qu'il vous dit ?
Pierre, c'était une dévastation ce soir-là. Il était venu avec sa femme dîner chez moi, et c'était devenu un ami. J'avais 18-19 ans, et il s'est mis à fouiller dans tous mes écrits. C'est-à-dire, il ouvrait un à un les cahiers, les carnets, il lisait, et il balançait tout par terre. C'est assez nul. Il s'est arrêté sur ce passage que vous venez de lire, ouais. Et alors qu'il est un peu embrouillé, hein, j'ai 18 ou 19 ans quand j'ai écrit ça. Et il me dit, tu as vu là ta première phrase ? Je l'ai trouvé au bout d'une corde. Il dit, ça c'est sublime, voilà, il faut que tu continues comme ça, tu tiens ton roman. Et en fait, ce qu'il me dit tout simplement, il me dit, je l'ai trouvé au bout d'une corde, c'est la première phrase de ton roman, mais t'as rien d'autre en fait. C'est-à-dire, le roman à venir, il te reste à l'écrire, mais c'est ça ton sujet. Mmh. Et en fait, pourquoi moi je voyais pas que c'était ça mon sujet, que c'était la mort de mon père mon sujet. J'essayais d'écrire, de faire de l'écriture automatique, comme les surréalistes, j'essayais de mimer Raymond Radiguet, j'essayais de mimer Jacques Lacan, je pastichais les auteurs que j'aimais, mais lui il me montre en fait un geste tout simple, c'est-à-dire que j'ai le droit de laisser s'écouler ce que je suis sur la page. En fait, c'est ça qu'il est en train de me dire. C'est-à-dire, j'ai le droit précisément de laisser s'écouler ma singularité, ouais, qui est celle d'un adolescent marqué par le deuil, sur la page. J'ai le droit de dire ça. Et très souvent, le sujet qu'on a à écrire, la chose qu'on a à dire, on la voit presque pas tellement elle est énorme, tellement elle prend de place dans notre vie. Évidemment que c'était là-dessus qu'il fallait que j'écrive. Mais il a fallu que quelqu'un, et en l'occurrence il s'appelle Pierre Lepère, mais il a fallu que quelqu'un me le montre du doigt, ouais, me dise, mais c'est ça en fait, je l'ai trouvé au bout d'une corde, tu l'as ta première phrase, il suffit de faire un livre entier qui soit écrit dans la même tonalité. Et quand on parlait de justesse, vous voyez, une phrase comme celle-ci, elle est simple, il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas d'adverbe, il n'y a pas de qualificatif, il n'y a pas de périphrase, c'est direct. Et ça, c'est, je dirais, ce qu'on recherche quand on écrit, c'est-à-dire la phrase qui arrive à contenir le maximum d'émotions.
Il n'y a pas de gyrophare.
Sans gyrophare littéraire, sans effet. Sans effet, c'est ça en fait la difficulté. Et dans la suite du passage, j'ai 18-19 ans, qui provient du carnet donc, que vous avez lu, il y a quelques gyrophares, il y a des obscurités, il y a des aphétéries, il y a des circonvolutions. Parce qu'en fait, c'est un très long travail que de passer d'une expression relativement brouillé, d'un fatras, d'images littéraires, à une phrase nue, à une phrase qui est juste en adéquation avec ce qui a été vécu, avec l'atmosphère de ce qui a été vécu, et avec la tonalité des émotions qui ont été traversées.
C'est très beau, Pierre poussa un profond soupir. « Mais tu dois simplifier encore, Alexandre. Oublie les tours de passe-passe des surréalistes. Laisse tomber les jeux de mots lacaniens et les formules alambiquées. Tu as ton sujet, tu as ta première phrase. Je l'ai trouvé au bout d'une corde. C'est déjà beaucoup, mais tu dois poursuivre dans cette veine. Il faut que tu maintiennes cette note jusqu'à la fin de ton récit. Si tu y parviens, tu seras peut-être un écrivain. Sinon, tu resteras un intello qui étale ses réflexions. » Est-ce que ça, Alexandre Lacroix, c'est pas votre programme littéraire ? Et est-ce que c'est pas aussi le programme de l'école d'écriture, les mots que vous avez créés ?
Alors, mon programme littéraire, effectivement, si j'en ai un à titre personnel, consiste... Enfin, je vois la littérature comme l'occasion pour le lecteur de savoir comment ça se passe dans la tête des autres êtres humains. Donc ouais. je la vois comme un médium qui permet d'organiser une télépathie, une communication d'âme à âme, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si Kerouac me parle, il a perdu son grand frère quand il avait 5 ans lui-même, son grand frère est mort à 9 ans, s'il me parle de ce deuil qu'il a hanté toute sa vie et de cette image, mais lui, il a que les souvenirs d'un enfant de 5 ans, qu'il a gardé de son frère, alors il me touche, il m'émeut, il me fait presque verser des larmes, parce que il m'a emmené dans son intériorité. Il n'y a que la littérature qui peut faire ça. Et voilà, c'est un programme d'écriture. Vous voyez, c'est pas l'idée de d'écrire des classiques, d'écrire des belles phrases, d'écrire des grandes constructions. Non, c'est que puis-je témoigner de ce que j'ai compris de la condition humaine. Que puis-je rapporter de ce que j'ai saisi de cette espèce d'aventure étrange dans laquelle nous sommes jetés, ces années tendues entre la naissance et la mort auxquelles nous ne comprenons rien? Qu'est-ce que je peux raconter de ce chaos-là, de ces émotions-là, et qu'est-ce que je peux transmettre à celui qui me lit? C'est ça pour moi l'affaire de la littérature. Ça, c'est le programme personnel, je dirais. Après, le programme de l'école Les Mots, c'est
l'école que vous avez cofondée quand?
Alors, cofondée avec Élise Nebout, elle a ouvert ses portes le 30 janvier 2017, donc ça fait maintenant 8 ans que cette aventure se poursuit, et il y a à peu près entre 2500 et 3000 personnes qui viennent suivre des ateliers d'écriture chaque année.
Donc c'est énorme, c'est un gros succès, oui. Et je précise d'ailleurs que beaucoup ont finalement publié des livres dans des maisons d'édition.
On est à 150 de nos participants qui ont publié.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Maud Ventura, par exemple, mon mari était notre ancien stagiaire, mais il y a plein, je pourrais citer Constant Giraud, plein de gens. Enfin, je vais faire des jaloux si je commence à en citer certains et pas d'autres, mais beaucoup de textes sortent de pas directement de l'école, mais de ce creuset, de ce lieu d'échange. Mais en fait, pourquoi ? Parce que ce que j'ai compris à travers ces années d'apprentissage que je raconte dans Devenir écrivain, moi, il m'a fallu 5 ans d'un travail quand même acharné, de 17 à 22 ans, pour publier un mince roman de 160 pages, et encore 160 pages aérées.
Donc, ces premières volontés sorties chez Grasset en 1998, vous aviez 22 ans.
Voilà, 5 ans de travail. Eh bien, pendant ces 5 années, je me suis perdu dans toutes sortes d'impasses, dans toutes sortes de mauvaises manières d'écrire que je raconte dans le livre, dans toutes sortes de... tantôt je voulais être trop exhaustif, tantôt j'étais trop froid, tantôt trop objectif, tantôt trop sociologique, tantôt trop ceci, trop cela. Et en fait, j'ai l'impression que un écrivain, c'est-à-dire dans un atelier d'écriture, quelqu'un qui a du métier, peut vous montrer les gestes, peut vous faire gagner du temps. En fait, c'est-à-dire, ce qui m'a pris 5 ans, au fond, si j'avais une école d'écriture, enfin, c'est un peu mon rêve, mais peut-être que ça aurait pris une ou deux années. C'est-à-dire, mon rêve est de faire, en fait, gagner ce temps-là à ceux qui se lancent.
Mais sans angle 3, un bouquet de mimosa, une grande table en bois, mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit, et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia, un piano, des feuilles, des crayons de bois, ma guitare Yamaha et vue sur la mer, dans un jardin plus vert qu'un ara iliger. Un ara iliger. C'est un perroquet tout vert, aussi vert que mon jardin, devant ma chambre, à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone, sans fatiguer personne. Je jouerais mon saxophone.
je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Je voudrais une chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illigère. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerai mon saxophone quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne.
C'était Philippe Catherine, une chambre à moi.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
J'aime les boîtes de nuit, j'aime les gens qui y sont, j'aime boire, j'aime danser, j'aime faire des bêtises, j'aime en dire. Et puis j'ai pas commencé à vivre comme un crouton parce que je suis soi-disant une intellectuelle, ça me fatigue.
Oui, alors vous aimez donc vous amuser?
Énormément, plus que n'importe quoi d'ailleurs. J'ai vécu dans les grammaires pendant quelques jours parce qu'on me reprochait beaucoup de bâcler mes livres et effectivement j'en ai bâclé pas mal.
Et pourquoi vous les aviez bâclés?
Par paresse.
C'est un métier sérieux, le métier d'écrivain.
Je sais, mais je suis quand même sérieusement paresseux.
Nous sommes toujours avec Alexandre Lacroix sur France Inter. Nous parlons, cher Alexandre, de votre dernier livre, Devenir écrivain, paru aux éditions Alary. Alors, est-ce que c'est un métier sérieux, être écrivain, contrairement à ce que dit Sagan ?
Il me semble que c'est une affaire sérieuse, mais qui ne doit pas, dont le sérieux ne doit pas déteindre sur tous les moments de l'existence.
Ouais.
C'est-à-dire que si on écrit, on peut essayer de s'appliquer le fameux conseil de Pline l'Ancien, pas un jour sans une ligne. C'est-à-dire que d'écrire un peu chaque jour, 2-3 heures chaque jour, par exemple, ouais. Le matin, le soir, quand on veut, dans le train, dans le RER. Et on ne sera pas productif beaucoup plus longtemps. Enfin, je me réfère à ma propre expérience, mais à celle des écrivains que je connais. On n'est pas créatif 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Donc une question intéressante pour un écrivain, c'est de savoir qu'est-ce que je fais du reste du temps. Alors elle dit, je vais habiter le reste de la vie, je vais le remplir de boîtes de nuit, de boissons, d'amusement, de légèreté. Pourquoi pas, ça peut être un programme. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'il est évident que la vie et l'écriture progressent d'un même pas. C'est-à-dire qu'en fait, un écrivain va choisir un style de vie qui va nous son écriture. Et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est-à-dire de trouver une sorte d'équilibre et d'aller-retour entre l'écriture et la vie. Moi, si j'ai écrit ce roman « Devenir écrivain » et pas un manuel d'écriture,
ouais.
C'est que je voulais montrer que la manière dont la vie et l'écriture avancent ensemble. Et en particulier, moi, je voulais montrer une chose assez précise dans cette époque, qui est l'époque de l'adolescence, hein, ces 17-20 ans, c'est que au départ, je me décris comme très seul et incapable d'aimer, en fait. Les seules relations qui peuvent se nouer avec des filles de mon âge sont des relations érotiques, mais au fond, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiments. Et en fait, l'écriture va se débloquer et va s'ouvrir à mesure que les sentiments vont arriver, c'est-à-dire à mesure que la capacité d'aimer va se mettre en place.
Tout va s'ouvrir en même temps.
Oui, tout s'ouvre en même temps et c'est pas un hasard. Et ça, c'est ce que je voulais montrer. J'ai la conviction intime que écrire, c'est pas écrire pour soi, c'est écrire pour un lecteur. Donc c'est une forme d'expression de soi, mais qui est adressée à l'autre. Et pour être capable de cette adresse, il faut en quelque sorte être capable d'amour. Ça peut paraître un peu moralisateur, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est-à-dire qu'il faut tenir suffisamment compte de l'altérité ou de la valeur de l'humanité de son semblable pour avoir envie de lui adresser ce qu'on est.
On est sous le soleil de Platon, hein, et c'est Platon qui disait « qui n'a jamais aimé ne peut philosopher », et vous, Alexandre Lacroix, vous semblez dire « qui n'a jamais aimé ne peut écrire ».
Oui. Dans un très beau livre d'Eric Fromm, qui est donc puisqu'on est au sous-soleil de Platon, qui s'appelle L'Art d'aimer, il explique une chose que je crois très juste. Il dit que on ne peut avoir de relation amoureuse qu'à partir du centre de son existence. C'est-à-dire que on ne peut se relier à l'autre que si on est au centre de son existence. Si on est à la surface de soi-même, si on porte un masque, si on est dans le mensonge, etc., on ne peut pas aimer. Donc, on ne peut aimer qu'à partir du centre de soi-même. Mais quelle définition plus merveilleuse de l'écriture. C'est-à-dire, on ne peut écrire qu'à partir du centre de son existence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être relié à ce qu'on a de plus profond en soi au moment où on écrit, comme au moment où on aime. C'est pour ça qu'au fond, à mon sens, les deux se débloquent en même temps. C'est-à-dire que tant que vous... Et on le voit très bien chez les jeunes auteurs ou dans les manuscrits qu'on reçoit dans les maisons d'édition. Enfin, moi, j'ai des manuscrits sous les yeux. Il y a toute une frange de manuscrits qui sont mauvais, mais qui sont bien écrits. Et pourquoi ils sont mauvais ? Parce que, si on veut le dire en termes philosophiques, ce sont des solipsismes. C'est-à-dire, ce sont des...
Ou alors, ce sont ce que Pierre Lepère ne voulait pas que vous fassiez, à savoir des textes d'intellectuels qui livrent ses réflexions.
Ouais, des espèces de ressassements qui peuvent ressembler à des ressassements que vous avez dans Les Insomnies, où un personnage, souvent un narrateur masculin, est là, et puis raconte ses états d'âme, et il ne décrit pas de scène, il ne fait pas exister de personnage, il ne fait pas exister les êtres autour de lui, il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de situation, il manque tout en fait. Il n'y a que ce flux de pensée envahissante, idéalement. Je vais redevenir un peu matheux, on pourrait faire un ratio sur lequel on mettrait une petite fraction, on mettrait au numérateur le nombre de lignes que vous écrivez et au dénominateur le nombre d'expériences vécues que vous avez. Et à mon avis, l'écriture sera d'autant meilleure que le dénominateur sera élevé et le numérateur faible, autrement dit que la fraction sera faible.
Alors justement, c'est ça qui est touchant dans votre livre, Devenir écrivain, c'est qu'en vérité, vous racontez comment vous vous ouvrez justement, comment vous ouvrez votre cœur et votre capacité d'altérité, de se mettre à la place d'autres vies que la vôtre. Alors au début, justement, vous êtes un peu fermé, et je lis un passage où vous dites « Je n'arrive pas à aimer, je n'ai que des relations érotiques avec cette jeune fille », peut-être même pas érotiques, hein, juste sexuelles. Et je vous lis pour qu'on voit votre ton, et je lis ça parce que c'est au début, et que le livre va raconter comment après vous vous ouvrez. « Parfois, elle a porté sa musique, l'album Park Life de Blur ou Loveless de My Bloody Valentine, ou encore du Supergrass, du Pulp, du Nirvana, les CD traînés autour de ma mini-chaîne. » Apparemment, elle avait des goûts très sûrs. Elle amenait là le meilleur de la pop-rock des années 90. Mais pour moi, c'était juste inaudible. De la bouillie pour chat. Vous n'avez pas beaucoup parce que c'est vraiment très bien ce qu'elle écoute. Je n'écoutais que du Brahms, du Schubert ou du Beethoven. Parfois, Mingus ou Coltrane. Du reste, cela ne me laissait pas la conscience tranquille, cette affaire-là. Je me disais que j'aurais du mal à écrire des romans plus tard, des histoires qui soient en phase avec mon époque, si je n'acceptais jamais d'être dupe ou partie prenante des modes, si je ne partageais pas les enthousiasmes de ma génération. On voit comme vous êtes fermé, pour le dire, comme vous l'avez dit vous-même. Il me manquerait trop de références pour mettre en forme le destin collectif. On voit que vous êtes cérébral, que vous ne vous ouvrez pas à ce qu'elle vous apporte. Et vous allez changer, je rassure le lecteur. Je me reprochais de me tenir trop à l'écart. J'étais conscient que mon intérêt littéraire bien compris aurait été de plonger dans la vague. Et pourtant, je ne parvenais pas à écouter du Blur, à trouver ça agréable. C'était juste au-dessus de mes forces. Et je jugeais lamentable de subir cette musique juste parce que j'avais envie de baiser. Mélanie ramenait la vulgarité et la dissonance du monde chez moi. Je la laissais faire uniquement parce que je la désirais. Cela montrait combien j'étais veule.
Oui. Alors, le personnage n'est pas sympathique.
Non. Je précise, moi qui ai lu beaucoup de vos livres, presque tous, que vous ne vous épargnez pas beaucoup. Vous vous montrez souvent sous ce visage-là, et que précisément, ce qui est intéressant, c'est que ça s'ouvre justement au fur et à mesure des livres et des années.
Oui, alors ce que j'avais vraiment envie de montrer en me racontant à 17 ans, 17, 18 ans, dans la première partie du livre, c'est, vous savez, l'adolescent qui pense qu'il a tout vu, tout vécu et tout compris. Il ouais. y a chez des ados, et je pense qu'il y a pas mal d'ados qui sont comme ça, c'est une espèce de sentiment d'être complètement, non pas du tout d'être dans les phénomènes de mode, d'être une victime de la mode, etc., mais de se vouloir en quelque sorte au-dessus de tout, enfin de s'imaginer un peu comme un demi-dieu ou une sorte d'égotrip adolescent. Et je raconte plusieurs scènes comme ça. Il y a une autre scène à peu près dans cette même partie où je raconte comment je m'étais acheté des petits cigares voltigeurs bon marché, du jean, et puis j'écoute du Brahms et je me mets un peignoir et je veux être comme un vieux.
Ouais.
Je m'étais acheté des charentaises. Voilà, je m'étais acheté des charentaises.
Vous le dites, je voudrais être un vieil écrivain.
Comme un vieil homme. Et en fait, ce fait de jouer dans l'adolescence à essayer de...
Je précise quand même que, parce que c'est très drôle comme scène, il y a quelqu'un débarque chez vous à ce moment-là et c'était pas prévu. Et il vous voit avec un cigario et des vieux chaussons.
Oui, ben c'est-à-dire l'adolescent qui joue à être un vieux con. En fait, ouais. Ça donne lieu à des scènes que moi je trouve drôles, mais qu'il faut prendre avec un certain recul.
Vous ne vous épargnez pas, mais justement, le livre montre que vous allez changer, et notamment à la fin, quand vous parlez de Kerouac, de son frère, d'amour, eh bien, vous semblez nous dire qu'on devient écrivain à la condition de réussir à ouvrir son cœur, justement, ce que vous disiez tout à l'heure. Je voudrais vous faire écouter ce que dit Jacques Audiard dans une émission qu'il avait faite à votre place, parce que ça nous permet peut-être de comprendre, par analogie avec le cinéma, quelque chose qui serait la différence entre l'écriture et la littérature.
À quoi sert, à quoi me sert, à quoi nous sert cet outil, somme toute, moins maintenant, mais qui a été très très primitif, ouais. La caméra, la prise de vue, une profondeur de champ, bref, une photo en mouvement, voilà. Et ben, c'est très très simple, il faut se reporter aux histoires de cinéma de Godard, ouais. 1947. En quoi le cinéma italien, à ce moment-là, va servir la société italienne ? À se reconstituer, à s'identifier. Rossellini sert à ça. À quoi sert le cinéma à la Troisième République, Renoir, Carnet, à identifier un moment très très fracturé de la société. La grande illusion, ça ne parle que de ça, bordel de merde. Et le western américain, à quoi sert-il? À identifier une société de migrants.
Une chambre d'écho de ce qui se trame dans le social.
Une chambre d'écho ne ferait que reproduire.
Ouais.
Non, ça c'est une machine à identifier.
Donc vous voyez ce que dit Jacques Audiard. C'est intéressant si on l'exporte à la littérature. Il dit qu'au fond, il est presque deleuzien quelque part. Mm-hmm. Alors on a beaucoup accablé Deleuze, essayons de le défendre un peu. Il dit que ce qui distingue des images en mouvement du vrai cinéma, c'est quand on sent un monde, quand on sent une époque. Est-ce que c'est pas aussi, pour aller un peu dans le sens de Deleuze, ce qui pourrait distinguer la littérature d'une simple écriture?
Pour traverser ce point, je pense qu'il faut approfondir le lien entre le singulier et l'universel.
Ben voilà.
C'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs stratégies pour atteindre l'universel. Il y a une première stratégie qui consiste à essayer de s'abstraire de la situation concrète dans laquelle on se trouve pour s'élever vers le monde des idées. On voit bien que ça, c'est une entreprise philosophique dans laquelle c'est la rationalité, c'est la part intellectuelle de l'âme humaine qui va être sollicitée. Il y a une démarche qui, au départ, va en sens tout à fait contraire, en sens tout à fait inverse, qui consiste à creuser sa propre singularité. C'est-à-dire, en fait, moi, je vais me désintéresser complètement de la politique, du monde, de ce qui est autour de moi. Je suis Jack Kerouac, j'écris en pleine guerre froide, dans une société capitaliste, qui est celle des Trente Glorieuses, mais en fait je vais parler de mon grand frère qui est mort, et je vais parler d'amitié dans laquelle j'essaye de revivre la fraternité que j'ai éprouvée, mes amitiés que je raconte dans Sur la route, etc. C'est ça que fait Kerouac. Ou si je me rapporte à moi, toute proportion gardée, je vais parler du deuil de mon père. Donc je vais creuser une singularité qui a l'air d'être apolitique, qui a l'air d'être asociologique, qui a l'air d'être complètement irresponsable et déconnectée du reste. Mais en fait, en creusant cette singularité, il va se passer quelque chose comme une ruse de la raison. C'est-à-dire que je vais atteindre l'autre. C'est-à-dire je vais réussir à aller au plus intime de la conscience de mon lecteur. Et je vais renouer avec l'universel, mais un universel par la profondeur et pas par le haut.
Voilà, une belle conclusion à Alexandre Lacroix et une belle réponse à Gilles Deleuze, dans laquelle on ressaisit aussi le propos d'Audiard. On a bien compris, c'est votre philosophie de la vie et de l'écriture que je vais maintenant résumer pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Voilà, chercher au cœur du singulier, soit l'universel, soit même la société, car on retrouve l'époque, les années 90 dans votre roman Devenir écrivain. Et puis on l'a très bien entendu, une philosophie de la justesse. Ça se cherche, doucement, en tâtonnant. Il faut trouver sa note, essayer de tenir sa note, comme vous l'a conseillé Pierre Lepère, à partir du moment où il a vu dans votre carnet quelque chose qui était vrai, quelque chose qui était votre affaire, votre secret, mais pas un sale petit secret, comme disait Deleuze, un beau secret de ceux qui tiennent une œuvre dans la durée, une philosophie du désir, tourner autour de son désir, même si on ne le connaît pas parfaitement, s'en rapprocher toujours, et à force de tourner autour comme ça, faire des livres, des essais, et finalement une œuvre. Merci beaucoup Alexandre Lacroix, je recommande Devenir écrivain, sorti aujourd'hui aux éditions Alary. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Laurent Baudouin.